Avec vous, Jérôme Val, bonsoir.
Bonsoir Yves.
Il y a de tout dans cette 21e journée de Ligue 1, la déconfiture de Monaco hier, le carton du Paris Saint-Germain et puis ce dimanche, on attendait Marseille au tournant.
Et l'OM, hein, incapable de gagner depuis deux mois et qui commençait une lente reculade au classement, et bien les Phocéens ont enclenché la marche avant sur la plus petite marge des marges, victoire 1-0 à Caen, Antoine Martin.
22 ans que l'Olympique de Marseille n'a pas perdu à Michel Dornano en Ligue 1. Il fallait bien revenir jouer ici à Caen, en Normandie, pour se rassurer un peu. Victoire sur la plus petite des marges, 1-0 face à des malherbistes qui ont été conquérants, en inquiétant Steve Mandanda à plusieurs reprises en première période, mais cela reste insuffisant pour accrocher le scalp de l'OM. Les Phocéens ont cueilli à froid les Normands en tout début de seconde période, grâce à une tête de Sanson sur un centre de Strootman. Les hommes de Rudy Garcia ont eu la tâche facilitée ensuite avec l'exclusion de Gilbert pour un deuxième avertissement. Une seconde période en supériorité numérique côté marseillais, mais qui sont restés fébriles jusqu'à la dernière minute. Après 9 matchs sans victoire, toutes compétitions confondues, c'est donc un succès conquis dans la difficulté par les joueurs de la Canebière. Ils vont pouvoir respirer 5 jours durant avant la réception du dauphin du Paris Saint-Germain. Marseille recevra Lille vendredi au stade Vélodrome pour enfin lancer une dynamique positive. À Caen, Antoine Martin pour France Inter.
Et Marseille remonte provisoirement à la 7e place du classement. Les autres résultats de ce dimanche, pas de but entre Rennes et Montpellier, 0-0. Et puis finalement, Angers s'impose sur le fil 1-0 contre Nantes.
Une 21e journée qui se conclura tout à l'heure par le plus chaud des derbies de cette Ligue 1, Saint-Etienne face à Lyon.
Le 118e entre les deux villes. Mais cette année, vous l'avez peut-être remarqué Yves, l'avant-match a été plutôt calme. Pas de petites phrases, pas de polémiques. Il n'y a même pas de supporters lyonnais à Geoffroy Guichard, même si la rencontre est classée à risque par les forces de l'ordre. Ce qui change aussi, eh bien, c'est que les Verts sont en forme sur le podium de la Ligue 1, ce qui ne leur était plus arrivé depuis 6 ans. À Saint-Etienne, Alexandre Vou.
Pour la 4e fois seulement depuis le début des années 2000, les Verts vont aborder ce derby devant Lyon. Au classement, ils sont 3e. Les Lyonnais à 2 points derrière. Un enjeu décuplé alors que ce sera le premier derby à domicile pour le coach de Saint-Etienne, Jean-Louis Gasset, qui sent bien que ce match est particulier.
Beaucoup d'excitation par rapport à tout ce qui se passe autour, tout ce qu'on m'a dit depuis que je suis arrivé. Il y a un an qu'on me parle de ça, je languis de voir ça. Ça, c'est unique.
D'ailleurs, le chaudron sera plein à craquer pour la première fois de la saison. Ce soir, de la potion magique pour des Stéphanois. Alors que sur le papier, Lyon est favori. Mais Saint-Etienne reste la seule équipe en France invaincue chez elle, toute compétition confondue. De quoi à nouveau rêver en grand pour le capitaine des Verts, Loïc Perrin.
Le championnat cette année est vraiment homogène. C'est ouvert à part Paris, bien sûr. Mais le reste, pour l'instant, il n'y a pas une équipe qui se détache forcément. Voilà, il reste énormément de points en jeu, à nous de rester accrochés et puis on verra au fur et à mesure.
À Saint-Etienne aussi, personne n'a oublié l'humiliante défaite de la saison dernière, 5-0 à Geoffroy Guichard, mais il s'en est passé des choses en 14 mois. Depuis, Saint-Etienne est devant au classement et les Verts ne comptent pas se laisser faire.
Et le leader de ce championnat, le Paris Saint-Germain, a donné des nouvelles après la blessure hier de son milieu de terrain, Marco Verratti, entorse de la cheville sans lésion mais sans préciser la durée de son indisponibilité. Rappelons-le, la Ligue des Champions, c'est dans moins d'un mois.
Contre Manchester. En rugby, deux équipes françaises sont qualifiées pour les quarts de finale de la Coupe d'Europe et elles vont devoir s'affronter.
Le Racing 92 contre Toulouse, voilà l'affiche de ce quart de finale. Les Toulousains étaient qualifiés avant même de jouer cet après-midi contre Basse. Et leur victoire face aux Anglais 20-17 les envoie donc chez les Franciliens. À Toulouse, Alain Gastal.
Une dernière victoire pour l'honneur qui permet aux Toulousains tout de même d'éviter d'aller jouer leur quart de finale à Londres face aux Saracens, sans doute l'épouvantail de la compétition, même s'il sera sans doute pas une partie de plaisir d'aller défier le Racing à Nanterre à la fin du mois de mars. Les Toulousains concluent tout de même de belle manière un parcours inespéré dans cette Coupe d'Europe où ils faisaient leur retour et dans la poule la plus difficile. La petite claquette de Médard à la fin du match de Basse, la partie initiale qui prive les Anglais d'une première victoire, a semble-t-il changé le destin de la saison toulousaine. Tous les joueurs vous le diront, ils ont pris confiance en eux et surtout en leur jeu déployé, fait de contre-attaques, de prises de risques et d'initiatives. Une douce euphorie que le pénible voyage à Dublin la semaine dernière n'a pas éteinte. Elle en a simplement fixé les limites, peut-être provisoires. Toulouse, Alain Gastal, France Inter.
Et le Racing 92 s'était qualifié hier dans un match marqué par l'annonce choc de son ouvreur sud-africain, Pat Lambie. Il met fin à sa carrière à 28 ans en cause des commotions cérébrales à répétition qui mettaient sa santé en danger. Le capitaine du Racing, Dimitri Sarzeski.
Ce sont des moments difficiles. On est là justement pour le soutenir, pour l'aider justement. Il sait qu'il peut compter sur nous, sur tout le monde, sur la famille du Racing. Il y a eu un avant-match avec beaucoup d'émotions. Il y a un après-match aussi où on lui a rendu, et voilà, on lui a dit merci, rendu hommage pour tout ce qu'il avait fait pour le club, parce que c'est un joueur et un homme exceptionnel.
Dimitri Zarzewski au micro de Vincent Pellegrini. Un homme exceptionnel aussi en ski, Clément Noël, le bien nommé, 21 ans, le Vosgien a remporté son premier succès en Coupe du Monde de slalom, et pas sur n'importe quelle piste, Wengen en Suisse. Il avait terminé 4e des derniers JO d'hiver et le voilà sur la plus haute marche devant les spécialistes, dont l'Autrichien Marcel Hirscher. Écoutez Clément Noël.
C'est un sentiment génial, c'était une course magnifique avec beaucoup de public, avec une piste parfaitement préparée. Donc voilà, moi je suis. La journée a superbement commencé avec une victoire en première manche, et puis après voilà, il y a un peu de pression à gérer et je suis très content d'avoir réussi à le faire. Ma deuxième manche n'est pas magnifique, il y a quelques erreurs, mais alors là tout de suite je m'en fous un petit peu parce que ça m'a suffi pour gagner cette course et c'est essentiel, donc c'est génial.
Allez, on passe au hand avec les experts qui n'ont pas trop le temps de souffler au mondial en Allemagne.
Et après leur victoire hier contre l'Espagne, 33-30, ils remettent le couvert dès ce soir contre l'Islande. Cette fois, deuxième rendez-vous du tour principal de ce mondial. L'occasion pour les tricolores de se rapprocher un peu plus des demi-finales. Bonsoir Jean-Pierre Blimeau.
Bonsoir Jérôme.
Vous êtes à Cologne pour France Inter. C'est le match, Jean-Pierre, a priori le plus abordable pour les Bleus, mais attention à la fatigue accumulée depuis le début de la compétition.
Oui, sur le papier, l'Islande qui s'est inclinée hier soir de 5 buts face à l'Allemagne ne devrait pas poser de problème aux experts. Mais la question qui se pose, Jérôme, c'est surtout l'état de fraîcheur des deux équipes. Pour la France, après l'Allemagne mardi, la Russie jeudi, l'Espagne hier, ce sera le 4e match en 6 jours dans une compétition internationale déjà très chargée. 5 matchs au premier tour, 3 au deuxième avant une éventuelle demi et une finale. Il faudra disputer 10 matchs pour aller au bout. Alors pas question de se relâcher, pas question de relâcher la pression non plus dans ce deuxième tour où une défaite peut être rédhibitoire, même contre l'Islande. Confirmation avec Vincent Gérard, l'un des gardiens de l'équipe de France.
Ce système fait que on peut se faire éliminer jusqu'à la dernière journée, donc à nous de rester concentrés, à nous d'être de pas faire de bévue déjà contre l'Islande pour continuer notre route, et on verra ce que les autres résultats nous réservent.
Il y a un risque de décompression ou c'est impossible pour vous?
Ça oui, on est dedans depuis le 26 décembre, alors je pense que personne va se dire c'est fait. Il y a des joueurs de beaucoup d'expérience dans cette équipe, même s'ils sont jeunes, et je pense pas.
Alors pour autant, l'équipe de France a livré contre l'Espagne le match le plus abouti du mondial et semble monter en puissance. Les pertes de balles ont été minimisées. L'attaque emmenée par Ludovic Fabregas, Dikamem, Quentin Mahé ou encore le jeune Melvin Richardson a envoyé du bois. La défense est apparue encore plus efficace, même si le maître à jouer, Jérôme, Nikola Karabatic, n'est pas encore à 100%. Les experts ont toutes les cartes en main pour être optimistes. Et puis à l'instant, dans quelques secondes, si jamais le Brésil bat la Croatie, puisque les Brésiliens, à quelques secondes de la fin du match, mènent face aux Croates 28-26, eh bien il suffirait que l'Allemagne batte la Croatie demain soir et que la France, dès ce soir, batte l'Islande pour que les tricolores soient déjà qualifiés pour les demi-finales avant même de jouer mercredi soir contre les Croates.
Merci Jean-Pierre Blimont, direct depuis Cologne. Ce match entre la France et l'Islande, c'est à 20h30 ce soir.
La sensation en tennis, comme dirait Fabrice Abgral, Roger Federer éliminé dès les huitièmes de finale à l'Open d'Australie.
Oui, le Suisse n'a pas résisté à la jeunesse de Stefanos Tsitsipas, défaite en 4-7 face à ce joueur de 20 ans et dont l'idole n'est autre que Federer lui-même. Mais cette mauvaise nouvelle pour l'ancien numéro 1 mondial en cache une bonne pour ses fans, puisque le Suisse a annoncé qu'il allait participer à Roland Garros à Paris après 4 ans d'absence.
Je suis quand même dans une phase où je pense que je dois me faire plaisir. Je ne peux pas dire que ça m'a manqué. L'année dernière, c'était bien de ne pas le faire. L'année d'avant aussi. L'année d'avant, j'étais blessé. J'avais juste envie de peut-être nouveau, une fois le refaire. Après, aussi peut-être pas avoir un méga break encore une fois. Je n'ai pas la sensation que c'est vraiment méga nécessaire. C'était un peu décidé comme ça.
Voilà, Roger Federer qui sera donc à Paris au printemps prochain. Federer chute, mais Rafael Nadal lui passe et se qualifie pour les quarts de finale en n'ayant toujours pas perdu un seul set. Les espoirs français maintenant à Melbourne ne tiennent plus qu'à un fil avec un Lucas Pouille, dernier escapé tricolore. Il sera sur les courts demain aux alentours de 7h heure de Paris face au Croate Borna Koric. Allez, des airs à la mer, Yves. Mmh. C'est le parcours atypique de Jean Galfione, l'ancien perchiste devenu navigateur.
Et oui, le médaillé olympique de 96 qui se raconte dans un livre qui vient de paraître, Rien n'est jamais écrit, livre publié par les éditions Artaud.
Galfione, le champion à la perche, le premier français à avoir passé une barre à 6 mètres et qui a réussi à se faire une place dans sa deuxième passion, la voile, au point d'avoir son propre bateau et de s'aligner sur des courses prestigieuses comme la Route du Rhum. Fabrice Hawkins l'a rencontré.
Un physique athlétique et des yeux rieurs, Jean Galfione est sur un nuage. Il n'aurait jamais imaginé faire carrière dans la voile.
Cette passion de la mer et de la voile, j'ai réussi à la transformer en faisant de la régate. Et de ces régates, me retrouver sur des courses prestigieuses, c'est un gros challenge pour moi. C'est une richesse, et un apprentissage de vie en permanence, une soif de dire, de se redécouvrir tout le temps, quoi.
Ses débuts sont encourageants. L'ancien perchiste finit 18e sur 45 pour sa première Route du Rhum en 2014. 4 ans plus tard, il remonte sur son monocoque, objectif faire mieux. C'est raté puisqu'il abandonne après seulement une semaine de course.
Je pense qu'il manquait des navigations, de l'expérience dans des météos compliquées à plus de 50 nœuds avec des rafales à plus de 100 km/h, avec des creux, enfin des conditions qu'on rencontre que très rarement, sur lesquelles même on évite. Ma préparation n'était pas suffisante et complète pour prétendre être au niveau de cette Route du Rhum en tout cas.
Une grosse déception pour l'ancien champion. Il a pensé à arrêter, mais il ne veut pas en rester là.
Je peux pas m'arrêter là-dessus. Je serai pas en paix avec l'idée que j'arrête sur un échec et que je ne serai pas en paix dans l'idée que je n'ai pas redonné tout ce qu'on m'a apporté dans cet univers.
Jean Galfione espère retrouver la mer en mai prochain avec de nouvelles courses.
Voilà, ne pas s'arrêter sur un échec, c'est peut-être ça d'ailleurs la définition Yves d'un champion.
Et son livre donc s'appelle « Rien n'est jamais écrit » aux éditions Artaud. C'était le journal des sports de Jérôme Val. Merci.